Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2009, là, je peux même dire que je suis candidat. La Cour internationale de Haye ne pourra pas me juger. La communauté internationale ne pourra pas me juger. Le président mauritanien, le coup d'État, un président légitimement élu, renversé, il est revenu à la vie constitutionnelle. Il n'a pas été réélu. On l'a empêché de ne pas être candidat. C'est parce qu'il a accepté d'être candidat. Ça veut dire quoi? C'est le peuple. Moi, je suis dans l'esprit du peuple. Je suis dans votre esprit, le bas peuple. J'évolue en fonction de votre mentalité. Mais pour le moment, je suis animé aussi par mon sixième sens. Parce que tout être, c'est ça. Peut-être encore que Dieu ne m'a pas encore donné ce sentiment. Mais tout est dans la main de Dieu. La décision qui va venir. C'est pourquoi je dis que j'évolue en fonction de la décision du peuple.
Arrivé au pouvoir par un putsch militaire au lendemain de la mort du président Lansana Conté, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui avait promis d'organiser des élections libres, transparentes, auxquelles il ne participerait pas, après quelques mois de gestion de la Guinée, semble avoir changé d'avis. Il menace désormais de postuler, d'être candidat. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. Le volte-face de Moussa Dadis Camara, sa menace d'ôter l'uniforme pour être candidat à la présidentielle, semble avoir soudé les forces vives. Forums regroupant partis politiques, syndicats et organisations de la société civile qui planchent notamment sur la modification de la Constitution. C'est Lou Dalène Diallo, l'un de ses membres influents.
Il y a des consensus parfois très difficiles à obtenir. Il y a les forces vives, il y a le CNDD, il y a toutes les parties prenantes. On a estimé qu'il y a un large consensus sur les points à modifier dans la présente Constitution et qu'une commission pourrait effectivement revoir ce texte fondamental afin d'apporter les amendements nécessaires pour qu'on dispose d'une Constitution permettant d'aller aux élections. Ce groupe auquel j'appartiens, on a pensé qu'il était possible de mettre en force l'ancienne constitution et aller aux élections législatives avec cette constitution afin que les députés élus disposant de toute la légitimité nécessaire procèdent au toilettage de la constitution. Mais cette formule n'a pas été retenue. On a estimé qu'il faut un conseil national de transition représentant toutes les forces vives et sociales du pays pour procéder au toilettage de l'ancienne constitution.
Moussa Dadis Camara semble de plus en plus conforté dans son nouvel objectif, dans sa volonté d'être candidat à la présidentielle par l'exemple du général Abdelaziz de Mauritanie qui est parvenu à passer en force après son putsch, en amadouant notamment la communauté internationale. Mais les nations européennes qui l'ont plus ou moins soutenu après son putsch, ou en tout cas qui ont fermé les yeux sur le coup de force perpétré en décembre 2008 parce qu'il promettait de ne pas se présenter à la présidentielle, ne comptent pas fermer les yeux. Surtout qu'elles ont accepté de financer cette transition. C'est justement pour exprimer la position de son pays que l'ambassadeur d'Allemagne est reçu en audience dans le Dadis Show par le chef de la junte. Il vient également en tant que représentant de l'Union européenne, puisque son pays en assure la présidence à cette période. L'Allemagne, le pays où Moussa Dadis Camara a suivi sa formation d'officier. L'échange se passe de commentaires. Grand moment de télévision.
Je voudrais parler comme ambassadeur d'Allemagne, aussi comme présidence de l'Union européenne locale, mais aussi comme ami de Dadis. Vous savez que l'Union européenne a annoncé depuis le coup d'État du 23 décembre qu'il est prêt d'accompagner la Guinée dans la période de transition. Mais il y a une certaine inquiétude. Dans quelques entrevues des derniers jours, vous avez limité votre non-candidature à l'année de 2009. Mais s'il est nécessaire de reporter les élections Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être candidat en 2010? Ça, c'est une certaine inquiétude.
Ich habe viele Experten für Sie. Ich bin bei mir. Das ist mein Land. Je suis Guinéen. Vous ne pouvez pas m'imposer. Je suis un président. Respectez mon autorité. Vous n'avez pas de conditions. Je veux sauver mon peuple. Vous ne parlez pas à n'importe qui. Vous parlez à un président, s'il vous plaît. Vous êtes en train de créer des problèmes. Vous voulez créer des problèmes en Guinée. Et ce n'est pas la mission de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. J'ai étudié sur le Fonds monétaire international, l'intervention du Fonds monétaire international. Je sais ce que c'est que les conditionnalités. Je sais, en matière de relations internationales, c'est une immixtion flagrante, sans respect, de l'autorité de l'État dans notre chère patrie. Vous s'adressez à moi, je ne suis pas votre égal. Je suis un président d'une république.
Le ton du capitaine Moussa Dadis Camara est à la mesure de sa détermination. Il est décidé. Le pouvoir semble l'avoir complètement changé. Les débuts encourageants paraissent progressivement être ternis par ses propos de plus en plus incohérents et violents. Il faut dire qu'au début, il a séduit en s'attaquant de front à la drogue dans ce pays présenté comme une plaque tournante du trafic. Il a multiplié les interpellations impliquant même des protégés de l'ancien régime tels que Ousmane Konté, le fils de l'ancien président, Saturnin Bangoura, le beau-frère de l'ex-chef de l'État. Ces multiples arrestations de hauts fonctionnaires véreux et d'officiers supérieurs complices l'ont rendu populaire. On fait de lui, aux yeux des Guinéens, un héros décidé à mettre un terme à la corruption généralisée et à la culture de l'impunité. Mais désormais, ses colères, ses diatribes à la télévision, mais surtout sa volonté d'être candidat, n'amusent plus du tout ses compatriotes qui ne voient pas en plus de réels changements de leurs conditions de vie. Le mécontentement enfle dans la population qui ne s'explique pas vraiment ce revirement. Avec les forces vives, elles s'organisent pour le faire savoir à Dadis. Une manifestation pacifique est prévue. Elle a pour but de demander au chef de la junte de respecter son engagement, sa parole, de ne pas se présenter à la présidentielle. Elle doit se tenir le 28 septembre au stade du même nom. Tout un symbole, lorsque l'on se souvient que c'est justement à cette date que la Guinée a obtenu son indépendance en 1958 à la suite du fameux non du Sékou Touré au général de Gaulle qui proposait le statut de communauté. La marche est interdite par la junte qui se radicalise. Et pourtant, ce 28 septembre, c'est par milliers que les Conakrikas prennent le chemin du stade pour exprimer leur mécontentement, leur rejet de la candidature de Moussa Dadis Camara. Dans le stade, il règne une atmosphère joyeuse. Les manifestants chantent et dansent et certains font le tour de la piste en brandissant le drapeau guinéen ou des pancartes avec des slogans hostiles à la candidature de Dadis. À la surprise de tous, l'armée guinéenne prend d'assaut le stade, bloque les entrées et tire à balles réelles sur les manifestants. Ce sont les bérets rouges de la garde présidentielle et les gendarmes travaillant à l'unité anti-drogue et contre le crime organisé, ainsi que certains membres de la police anti-émeute. Elle est également soutenue par des dizaines de milices irrégulières en civil. La violence de l'intervention est sans limite. Des femmes sont violées, des enfants et des vieillards abattus sans sommation, sans ménagement. C'est un carnage. Ce massacre délibéré et manifestement planifié va faire plus de 150 morts. En plus, les militaires vont enlever plusieurs dizaines de femmes, dont certaines ne seront libérées que quelques jours plus tard, après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces. La Guinée est ce 28 septembre 2009 en état de choc. Dans cette violence, dans cette descente meurtrière, de nombreux opposants sont également la cible des militaires qui les matraquent et les arrêtent sans ménagement. Certains sont froidement abattus alors qu'ils tentent d'escalader les murs du stade pour s'enfuir. Sidya Touré, l'ancien premier ministre de l'Ansana Conté, était dans le stade.
Nous sommes rentrés dans le stade et quelque temps après, sans qu'on comprenne pourquoi, un groupe de militaires, enfin en tout cas de paramilitaires, est arrivé, cagoulé, drogué, qui ont commencé à tirer dans le tas. mais sans sommation. Nous avons vu des choses ignobles, des gens agresser les femmes, les violer, quelque chose d'apocalyptique, parce que rien dans la culture de notre pays ne ressemble à cela. Moi, j'ai été 10 ans dans l'opposition ici, au temps de l'ancien régime, qui n'était pas un régime particulièrement démocratique, mais il n'y a jamais eu d'agression directe vis-à-vis des leaders.
Pour vous, il s'agit des hommes du capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de l'État autoproclamé ?
Ceux qui sont venus nous agresser étaient conduits par son aide de camp.
C'est Loul Alain Diallo, l'autre membre de l'opposition politique, le leader des forces démocratiques de Guinée, a lui aussi été sérieusement passé à tabac. Il craint pour sa vie.
Je me sens en danger ici. Déjà, les bérets rouges qui m'ont assommé de coups avaient l'intention de me tuer. Et ils l'ont dit clairement qu'on va m'exterminer, que je ne parlerai plus à RFI. Et ils m'ont assommé de coups, ils m'ont blessé à la tête et ils ont cassé toutes mes côtes. C'est lorsqu'ils m'ont pris pour mort qu'ils m'ont abandonné avec des propos racistes et ethnocentristes à mon endroit et à l'endroit de mon ethnie. J'étais vraiment choqué. Mais j'ai fait le mort finalement. On a dit que c'était bon pour la morgue, mais depuis ça encore, je reçois des menaces. Il semble qu'on me cherche. Si bien que lorsqu'ils sont venus me chercher l'armée pour dire que chacun de nous peut rentrer chez lui, parce qu'on était à la clinique, mais on était prisonniers. Moi, j'ai préféré rester à la clinique, mais à 3h du matin, ils sont allés me chercher à la maison. Heureusement, j'étais pas rentré.
La Ligue des droits de l'homme fait état de 157 morts et plusieurs milliers de blessés et des centaines de disparus. Un bilan que conteste la junte militaire qui tient pour responsable les leaders de l'opposition. Devant la forte réaction médiatique qui non seulement dénonce ces exactions, mais également fait écho de cadavres, des dépouilles que l'on sort des morgues pour aller enterrer en catimini, afin de dissimuler l'ampleur du drame, devant la ferme condamnation de la communauté internationale, elle invite la presse à une visite de la ville et des hôpitaux. Le but est de minimiser l'ampleur du massacre. Laurent Coreux est dans ce contingent de journalistes pour le compte de Radio France Internationale.
Écoutez, la visite a commencé par la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Le médecin légiste a d'abord fait le détail des corps enregistrés dans ses statistiques. En tout, dit-il, 57 morts, 12 cas de décès par arme à feu et, affirme-t-il, 44 morts des suites de polytraumatismes, des morts typiques donc de mouvements de foule. Il y a également, a-t-il dit, un décès par accident de la route. Ce chiffre total de 57 morts, dont 12 par arme à feu, est en contradiction avec ce que rapportent différents témoins, en contradiction aussi avec ce qu'affirment les organisations de défense des droits de l'homme. Au bas mot, dit-il, il y aurait une centaine de morts de plus que ce chiffre officiel. La section guinéenne de la RADO, la Rencontre africaine des droits de l'homme, fait état d'informations selon lesquelles des corps auraient été enlevés par les militaires de la morgue. La RADO parle de 200 à 300 corps qui auraient été soustraits de l'hôpital Ignace Dine. Le ministre de la Santé, le médecin colonel Chérif Abdoulaye Diaby, a démenti cet enlèvement de corps. Ça n'est pas vrai, a-t-il déclaré à la presse. Aucun corps n'a été retiré des deux morgues. Si jamais quelqu'un a la preuve, a-t-il poursuivi, alors qu'il montre où les corps ont été enterrés.
Et la junte a ensuite emmené la presse au commissariat central de Dixine.
Oui, un commissariat dévasté, le sol est jonché de papier, des appareils ont été détruits. Mamadi Kourouma, le commissaire principal, a montré les archives brûlées, mais aussi et surtout la pièce dans laquelle il y avait, dit-il, une quinzaine d'armes. Ces armes auraient été prises par les manifestants sur leur route vers le stade. En tout cas, c'est un point sur lequel les autorités construisent une bonne partie de leur défense. Si ça avait été une marche pacifique, on n'aurait pas eu besoin de s'emparer d'armes, a déclaré à la sortie de ce commissariat Papa Koli Koroma, le ministre de l'Environnement. Cela veut dire, conclut-il, que ces actions étaient très méditées.
Alors, 3 jours après ce massacre, quelle est l'ambiance sur place, Laurent ?
Mais je pense que la capitale guinéenne, comme vous le disiez tout à l'heure, est traumatisée. La vie redémarre très lentement. Les taxis circulent à nouveau. Certaines stations-service sont rouvertes. Mais à Dixine, où j'ai vu tout à l'heure, de nombreux magasins étaient encore barricadés derrière leurs portes en métal. La population, il faut bien le dire, reste très inquiète. Chacun est assis à la maison et demande des nouvelles des autres, expliquait tout à l'heure un habitant de Koloma. Il y a toujours la peur, disait-il, parce qu'il n'y a toujours pas de solution qui a été trouvée.
Pas de solution trouvée à la crise. Et la junte, elle, ne compte pas endosser la responsabilité de ce carnage qui suscite partout dans le monde indignation et condamnation. Cette fois-ci, Moussa Dadis Camara est parvenu à faire l'unanimité contre lui. Face à l'ampleur du massacre qui, chaque jour, enfle avec des témoignages des victimes et la presse qui s'en est fait l'écho, ses explications, les arguments qu'il avance pour justifier cette violence ne semble convaincre personne. Il pointe du doigt l'armée guinéenne que personne ne peut maîtriser, dont il est l'otage.
Je suis confronté à une situation complexe, difficile de la Guinée aujourd'hui, le choix est très difficile. Je suis pris en otage par le peuple, une partie du peuple. Ceux qui disent que non, le président Dadis ne peut pas être candidat. Ceux qui disent que le président Dadis doit être candidat. L'armée est là. Cette armée qui n'est pas structurée, où le caporal, le sergent peut quitter ici, il peut rentrer dans ton bureau. Mais l'armée me prend en otage. L'armée dit qu'ils m'ont porté confiance. Parce que dès la prise du pouvoir, quand j'ai commencé à dire, bon, je ne serai pas candidat, il y a eu des réactions dans les camps. Je suis pris par l'armée en otage. Ils disent que tu laisses le pouvoir, nous allons prendre.
Et l'armée, est-ce qu'elle est divisée ou unie sur la question de votre candidature?
Je ne suis pas un dieu pour le dire exactement. Mais il faut que je sois honnête que même si l'armée n'est pas unie sur ma candidature, mais l'armée a du sentiment pour moi. L'armée a du respect pour moi. L'armée est assise sur l'espoir par rapport à ma personne.
La communauté internationale menace désormais de traduire le bouillant capitaine Moussa Dadis Camara devant la Cour pénale internationale pour le massacre perpétré dans le stade du 28 septembre. Les chancelleries occidentales ne s'encombrent plus de langage diplomatique lorsqu'elles évoquent sa responsabilité dans cette tragédie. Le ministre des Affaires étrangères français, Bernard Kouchner, évoque très clairement devant la presse le fort soupçon qui pèse sur lui. Et le président Moussa Dadis Camara, devant son isolement et la pression de la communauté internationale, sollicite une médiation.
Alors hier soir, le chef de la junte est apparu à la télévision. Moussa Dadis Camara a proposé qu'un président africain soit nommé pour faire office de sage et mener une médiation dans le pays. Il s'est également dit prêt à mettre en place une commission d'enquête en collaboration avec l'ONU sur les événements de lundi et sur ceux aussi de janvier 2007. Là aussi, une répression sanglante d'une manifestation, c'était sous le régime de l'ancien Conté. Enfin, le numéro 1 guinéen propose de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui intégrerait l'ensemble des partis politiques pour gérer la transition avant la présidentielle de janvier.
Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso est choisi par ses pairs pour mener cette médiation guinéenne. Mais, même si le capitaine Moussa Dadis Camara est désormais acculé, même s'il fait l'objet de nombreuses condamnations, il n'accepte pas qu'on lui manque de respect. Il n'a rien perdu de sa verve, de sa pugnacité habituelle. Et les propos du ministre français Bernard Kouchner, qui le mettent en cause dans les massacres du 28 septembre, il ne les accepte pas.
Je n'ai pas discuté avec un ministre des Affaires étrangères. Ayez du respect pour moi. Et quand vous parlez de Kouchner, Kouchner n'est que ministre des Affaires étrangères de la France. La France est un État souverain. La Guinée est un État souverain. J'ai à dialoguer avec mon frère, le respecté, le président Sarkozy. C'est lorsque le président Sarkozy prend une position, ça peut me laisser à réfléchir. Mais je n'ai pas besoin de répondre à un ministre des Affaires étrangères. La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France, ni d'aucune puissance. Et lorsque un ministre des Affaires étrangères parle comme ça, je crois que c'est une façon de soulever, de révolter, d'atteindre à la dignité des peuples africains.
Même si le capitaine Moussa Dadis Camara continue de manifester une certaine assurance, même s'il continue d'imputer la responsabilité du drame qui a fait plus de 150 morts et des milliers de blessés dans son pays aux leaders de l'opposition, il faut reconnaître que la pression commence à peser lourd sur ses épaules. Il est obligé d'accepter l'arrivée d'une commission d'enquête internationale, ce qui signifie en réalité qu'il va devoir lâcher certains de ses proches collaborateurs qui ont activement participé au massacre dans le stade. Une perspective qui risque de le fragiliser considérablement dans son propre camp. Et l'idée de sa candidature est de moins en moins envisageable, à la fois par les partenaires économiques qui suspendent peu à peu leur aide, mais également par une grande partie de la population guinéenne. Le capitaine Moussa Dadis Camara s'apprête à affronter une autre réalité moins clinquante, moins réjouissante de la gestion du pouvoir, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Les temps qui vont suivre s'annoncent mouvementés. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI pour la suite des archives d'Afrique. Restez à l'écoute.
Les archives d'Afrique. À la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Toute personne
coupable de détournement sera châtié. Je vous dis, toute personne qui va détourner le bien de l'État à ses profits, si il est pris, il sera jugé et châtié devant le peuple.
C'est par ses promesses de châtier les corrompus, d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre le pouvoir aux civils que le jeune et bouillant capitaine qui prend le pouvoir quelques heures seulement après la mort du général Lansana Conté en ce mois de décembre 2008 va séduire les Guinéens qui voient en lui celui qui va remettre de l'ordre dans la maison après plus de 50 ans de dictature. Pour beaucoup, même si les dispositions constitutionnelles ont été bafouées ou oubliées, mises de côté, il n'y a pas de quoi s'affoler. La promesse de la junte, baptisée CNDD, Conseil National pour la Démocratie et le Développement, dirigée par Moussa Dadis Camara, séduit. Il s'agit pour tous d'une nouvelle transition qui va permettre de planter un nouveau cadre. Les attentes sont importantes.
Moi, je crois que je n'ai pas droit à l'erreur.
Pourtant, très rapidement, celui qui dit ne pas avoir droit à l'erreur, dans l'euphorie qui accompagne ses décisions, les humiliations qu'il inflige, à la fois aux hommes d'affaires véreux, aux diplomates occidentaux, symboles de l'impérialisme, et même à certains de ses collaborateurs, perçus comme le prolongement du pouvoir corrompu de Lansana Conté, devant la pression des siens qui se fait de plus en plus insistante, va se prendre à rêver d'un destin national, d'une légitimation par les urnes.
Tous les citoyens ont le droit de se présenter comme candidat à la présidence. Personne n'en est militaire. Je suis citoyen comme eux. Si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat.
Le ton semble avoir changé en 4 mois. Le capitaine président, à la tête de la junte, qui a désormais son espace à la télévision, baptisé le Daddy Show, qui fait un tabac sur le net à travers le monde, menace maintenant d'être candidat à la présidentielle. Celui qui devait retourner dans la caserne une fois le travail terminé n'exclut plus d'être de la partie. Un volte-face qui contribue à souder les forces vives. Le forum regroupant partis politiques, syndicats et organisations de la société civile qui appelle à une manifestation pacifique à la date symbolique du 28 septembre 2009, jour anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le lieu est tout aussi symbolique, le stade de Conakry baptisé lui aussi « Stade du 28 septembre ». C'est cet endroit où défilent des milliers de Conakrykas qui expriment leur rejet de la candidature du candidat Moussa Dadis Camara que l'armée, avec en tête la garde présidentielle et les gendarmes de l'unité anti-drogue, soutenus par des dizaines de milices, vont prendre d'assaut. C'est le massacre. Plus de 150 morts et des centaines de blessés, dont des femmes violées.
Ils matraquaient les femmes, ils tapent sur les pieds, ils cognent sur la tête. Quand la personne tombe, elle marche dessus et continue. Après, comme beaucoup de gens sont sortis, parce qu'elles ne peuvent pas courir, elles étaient bloquées dans l'enceinte au fond du stade. Alors, ils ont profité, ils les ont déshabillées, arraché leurs habits, les mettre nus. Et il y en a qui ont été violées là-bas. J'ai vu des filles revenir ensanglantées, blessées, nues, soit avec une serviette ou d'un poing déchiré, en larmes, les yeux rouges, en pleurant.
Effectivement, monsieur, je fais partie de ceux qui ont réclamé cette manifestation sanglante au niveau du stade du 28 septembre. Je confirme, monsieur, qu'il y a eu des viols, il y a eu des tirs à balles réelles. C'est la gendarmerie qui était d'abord concernée, puisqu'ils ne se sont pas entendus avec les opposants. On a reçu des ordres d'aller mater cette opposition, comme l'a qualifié nos chefs d'indisciplinés. Nos hommes, y compris moi, je faisais partie, on ne pouvait pas refuser les ordres. C'est-à-dire, c'était d'aller mater les opposants, de faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule autorité en Guinée, franchement, et de les donner une leçon. Il y a eu tellement de morts, on ne pouvait même pas compter. Moi, j'avais même des vertiges, franchement, hein, j'avais des vertiges. Il y a eu plus de 160 ou 180 morts. Franchement, je ne peux même pas vous dire combien de cadavres. Et je sais que dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d'aller récupérer les corps. Et on a récupéré environ 37 corps qui ont été enfouis. Mais là, je ne peux pas dire à quel endroit vraiment. C'est tué ou peut-être tué.
Vous-même, vous avez dû tuer des gens?
C'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Je vous dis, c'est tué ou être tué.
Désormais, Dadis Camara est dans l'œil du cyclone. Les propos parfois incohérents du chef de la junte ne font plus rire personne. Et c'est toute la communauté internationale qui condamne ces violences et souhaite son départ. Dans les chancelleries occidentales, on parle de plus en plus de la Cour pénale internationale devant laquelle il faudrait qu'il comparaisse. Sous la pression, le capitaine Moussa Dadis Camara se dit otage de l'armée qu'il est le seul à pouvoir contrôler. Une armée où règne l'indiscipline et où un caporal peut désobéir et même refuser d'exécuter les ordres d'un général ne peut être tenu par un civil. Le chef de la junte, qui voit ses alliés s'éloigner, qui a sollicité et obtenu la médiation du président Blaise Compaoré du Burkina Faso, doit, s'il veut éviter la justice internationale, coopérer et par conséquent livrer certains de ses proches à la justice. Ceux qui ont perpétré le massacre doivent être jugés.
L'armée est là. Cette armée qui n'est pas structurée, où le caporal, le sergent peut quitter ici, il peut rentrer dans ton bureau. Mais l'armée me prend en otage. L'armée dit qu'ils m'ont porté confiance. Parce que dès la prise du pouvoir, quand j'ai commencé à dire, bon, je ne serai pas candidat, il y a eu des réactions dans les camps. Je suis pris par l'armée en otage. Ils disent que tu laisses le pouvoir, nous allons prendre.
Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas? Va-t-il, malgré ces massacres qui ont profondément discrédité son régime et meurtri les Guinéens, persister dans son idée de se présenter à la présidentielle qui s'annonce? Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée, avec comme invité Moussa Dadis Camara lui-même.
Personne ne peut maîtriser cette armée. Les civils non plus ne peuvent pas maîtriser cette armée. La preuve en est que tous les leaders, lorsqu'ils venaient dans mon bureau, ils ont dit que par rapport à cette contexture, l'armée n'est pas structurée, l'armée n'est pas hiérarchisée. Où le caporal peut dire au général « merde ».
Acculé par la communauté internationale qui désormais suspend son aide, Moussa Dadis Camara est obligé de coopérer, de s'expliquer sur les circonstances de ce massacre et de s'expliquer sur les viols perpétrés par ces hommes dans le stade du 28 septembre. Capitaine Moussa Dadis Camara, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce fameux jour du 28 septembre? Comment peut-on donner l'ordre à sa garde de massacrer son peuple? Qui a donné l'ordre d'encercler le camp et de mater les opposants, comme le mentionnait un des acteurs de cette tuerie? C'est vous?
Et cet événement qui s'est passé, je puis le dire en âme et conscience, que je n'ai jamais demandé ou je n'ai jamais donné des ordres aux gens pour massacrer. Ma religion, mon éducation, et même sur le plan du caractère génétique, ne me ressemble pas.
Mais alors comment on peut comprendre que vous ayez le pouvoir en main, que ce pouvoir vous le teniez, et qu'il y ait tant de massacres dans un stade dans Conakry, alors que vous êtes à Conakry?
Et le pouvoir en lui-même, il n'est pas dit quand vous avez le pouvoir que vous maîtrisez toutes les situations. C'est comme une famille. Vous avez des enfants, les enfants sortent, ils partent à l'école, ou d'autres partent faire d'autres plaisirs. Mais est-ce que s'ils sont dehors, vous en tant que père de famille, est-ce que vous pouvez vous rendre compte ce qui se passe entre vos enfants ou entre un de vos enfants et ses collègues? Mais vous êtes responsable, vous êtes chef de famille. Et lorsque un de vos enfants, que vous apprenez qu'il a fait des histoires, ou tout au moins au cours de cette histoire, qu'il aurait blessé un de ses collègues, même à l'école, c'est vous le père de famille qu'on va voir. Mais il n'est pas dit forcément que c'est vous qui avez dit à vos enfants d'aller faire de la bagarre, d'aller blesser. C'est comme le pouvoir. Quand on a le pouvoir, il y a des ministres. Vous êtes le président. Pourquoi des ministres? Chaque ministre joue son rôle.
On a du mal à comprendre que le tout-puissant Dadis Camara n'est pas dit à un moment dans un talkie-walkie ou à quelqu'un, allez-y, tirez sur eux, arrêtez ses opposants.
Oui, mais écoutez, par rapport à toutes ces questions, je suis là comme président. Et vous le savez très bien. Et pourquoi d'ailleurs je disais que même pendant le processus électoral, j'étais tenu obligé de calmer, de moraliser certains hommes. Connaissant très bien notre armée, à un moment donné, la prise du pouvoir, ça ne revenait pas de moi.
Vous n'avez jamais été au courant qu'il y avait ces violences dans le stade, monsieur le président?
C'est après les violences que je fus informé.
Et vous n'avez pas protégé des proches en niant les crimes qu'il y avait eu dans ce stade?
Je puis dire que j'ai manifesté une volonté humaine. C'est moi qui ai pris la décision de m'adresser aux Nations Unies afin qu'on puisse envoyer des observateurs internationaux
pour une enquête.
Et en constituant une commission nationale que je venais de parler tantôt, j'aurais même demandé de chercher un médiateur. Et c'est ce que la Commission nationale, les Nations Unies ont eu à faire. Donc, en matière de justice, il ne faudrait pas qu'en ce moment, que j'essaye d'inquiéter des militaires ou faire des arrestations. Ce serait un peu bizarre, j'aurais fui à la loi. Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis habilité à le faire? Est-ce que je suis...
Vous étiez le chef de l'État.
Non, est-ce que je suis le juge? Moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, puisque les Nations Unies doivent envoyer des observateurs avec la formation d'une commission nationale, c'est à eux d'indexer au bout du doigt ou d'interpeller X ou Y militaires en fonction de l'interpellation, en fonction de cette déclaration, la commission pouvait dire que cet homme est coupable. Mais si j'anticipais des arrestations, j'ai évité qu'on ne dise que c'est un règlement de compte.
Quoi qu'il en soit, le capitaine Moussa Dadis Camara doit coopérer, doit faciliter l'enquête sur ces massacres. Mais il n'a pas pour autant renoncé sur le moment à son projet de légitimation par les urnes. Même si pour tous, sa candidature ne peut être acceptée par la communauté internationale. La France a suspendu sa coopération militaire et demande, conjointement avec les États-Unis d'Amérique, une enquête internationale. La CPI donne une suite favorable à cette requête et la France appelle ses 2500 ressortissants à quitter la Guinée en raison de la détérioration de la situation. Bref, la junte n'est plus fréquentable et l'idée d'une candidature de Moussa Dadis Camara n'est plus envisageable, même s'il continue de mener campagne. Capitaine Moussa Dadis Camara, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à changer d'avis, à oublier votre promesse de départ qui était de ne pas être candidat? Qu'est-ce qui vous amène à envisager d'être président de la République au terme de la transition? C'est le confort, les ors du palais, les limousines? On se souvient qu'à la prise de pouvoir, vous aviez promis de ne pas être candidat, de mener la transition et de retourner dans les casernes.
Vous dites la prise du pouvoir, j'ai dit que je ne serais pas candidat. Parfait, je l'ai dit que nous allons organiser les élections. Mais lorsque un homme ou des hommes sacrifient leur vie pour la conquête d'un pouvoir, pour sauver une nation, j'avais pensé qu'à l'époque, ce n'était pas une façon de me récompenser.
En partant?
Non, en me menaçant pour dire qu'il ne doit pas être candidat.
C'est une réaction à ce que disait l'opposition, à ce que disait la communauté internationale?
Quelle réaction? Pour moi, puisque j'étais sous menace et ils ne savaient pas tout ce qui se passait au sein des forces armées, pour eux, c'est seulement ne pas aller aux élections. Je suis d'accord, mais qu'ils comprennent qu'à l'époque, je ne méritais pas d'être beaucoup menacé du moment que moi-même j'avais pris la volonté pour dire que je ne serais pas candidat. Et si, à un certain moment donné, j'ai dit que je vais ôter la tenue, c'était en quelque sorte pour qu'il reste tranquille.
Ça veut dire que vous n'avez jamais eu envie de rester, monsieur le président? Ça ne vous a jamais tenté? Parce que si c'était le cas, vous auriez pu un peu lâcher du lest à un certain moment.
Non, mais si...
Lorsque la pression est montée, vous auriez pu dire c'était une façon de vous pousser à vous tenir un peu plus correctement, plus tranquille.
Non, lorsque la tension est montée, au contraire, cette menace, c'était pour leur dire si cette menace continuait, je pouvais me présenter. Et je sais qu'en le disant, et quand je l'ai dit ce jour, et je crois que la plupart des politiciens ont compris que ce jour j'étais en colère et que si jamais on continuait effectivement à le menacer, parce que certains me l'ont dit, si jamais on continue à le menacer, je crois qu'il essaiera de faire quelque chose qui n'est pas de son vouloir.
Le bouillant capitaine, même s'il reste droit dans ses bottes, a compris qu'il faut donner des gages. Ce qui va très rapidement contribuer à créer des dissensions au sein du CNDD, le Comité National pour la Démocratie et le Développement. Le très discret numéro 2 du régime veut arrêter Aboubacar Toumba Diakité. Mais Dadis y est opposé, même s'il semble de plus en plus se désolidariser des responsables des violences. 3 décembre 2009, alors que le général Sékou Bakonaté s'est envolé vers le Liban, une rumeur envahit en début de soirée les rues de la capitale guinéenne. Et ensuite, les médias internationaux.
Le flou demeure ce midi après la tentative de meurtre contre le chef de la junte guinéenne par son aide de camp. Aux dernières nouvelles, Dadis Camara est en train d'être évacué vers le Maroc. On fait le point avec Ghislaine Dupont dans un instant.
Effectivement, Dadis Camara se trouve en ce moment même à bord d'un avion burkinabé qui doit l'évacuer vers le Maroc. C'est à l'instant ce que vient de confirmer un ministre guinéen à la présidence. Alors, on ne connaît toujours pas la gravité et la nature de la blessure du chef de la junte guinéenne. Des informations indiquent qu'il aurait reçu une balle au cou et à la la tête. En tout cas, si Dadis Camara est finalement évacué sur le Maroc, on peut en déduire qu'il est sans doute grièvement blessé. Dans la capitale, Conakry, l'atmosphère est plutôt calme ce matin. Beaucoup d'habitants sont restés chez eux et n'ont pas envoyé les enfants à l'école. L'activité et la circulation sont réduites. Des gendarmes et militaires ont été déployés aux entrées et sorties de la ville et des patrouilles quadrillent la capitale. L'aide de camp de Dadis Camara, le lieutenant Toumba, qui est accusé d'avoir tiré hier soir sur le chef de la junte, serait lui retranché avec ses hommes dans un quartier de Conakry. On ne sait pas encore précisément les raisons de cette tentative d'assassinat. Plusieurs versions circulent. Est-ce lié à des affaires de trafic de drogue ou bien à l'enquête internationale sur la répression du 28 septembre dernier? Camara aurait peut-être cherché à accuser Toumba pour s'affranchir de toute responsabilité dans ce massacre commis ce jour-là, le 28 septembre dernier. Massacre qui a coûté la vie à au moins 150 civils.
La seconde hypothèse est la bonne. L'enquête sur les massacres du 28 septembre a divisé les membres de la junte. Et Toumba Diakité, l'aide de camp du président, n'a visiblement pas apprécié d'être celui qui allait être sacrifié sur l'autel de la réconciliation. Après son forfait, malgré le déploiement des moyens militaires, il n'est toujours pas arrêté. Juste après l'évacuation du capitaine Moussa Dadis Camara, Sekou Bakonaté, qui était absent du territoire, est immédiatement revenu pour reprendre les rênes de la Guinée. C'est lui qui organise les recherches pour interpeller Toumba Diakité, qui dit pourtant ne rien craindre et être libre de ses mouvements. Il est joint par téléphone par Olivier Roger de Radio France Internationale.
Il est venu me chercher à Koundara avec tout son cortège, dans l'intention de m'arrêter. Il est venu en me demandant qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je suis en train de jouer. Et même mon chapeau, il a tapé par ça pour faire tomber. Je l'ai répondu que je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires ne peuvent passer sans que je ne sois informé. J'ai dit, je ne sais pas de quoi vous jouez. Je suis un chef d'opération. Makambo voulait venir vers moi, c'est à ce moment, parce que j'avais une arme sous mes mains à ce moment. C'est à ce moment que j'ai ouvert le feu sur lui. Je dis bien, je précise, une balle, environ une à deux travers doigts de la nuque, du côté droit.
Vous lui avez tiré du côté de la nuque, côté droit, ça veut dire qu'il était de dos?
Non, ça, c'est, il n'était pas du dos. C'est suivant le mouvement de sa tête.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous avez tiré sur le président?
Donc, il est tombé et automatiquement, moi, je l'ai laissé parce que l'autre, son chargé d'opération, était parti prendre une arme lourde et pour ouvrir le feu sur moi. Et moi aussi, je me suis précipité sur lui. Et on a commencé à se bagarrer. C'est pendant cette bagarre, les gens ont pris pour le conduire dans un hôpital. Moi, je me battais en seulement avec l'autre.
Et comment vous avez pu, alors qu'il y avait plein de soldats de la garde rapprochée du président, comment vous avez pu ensuite vous enfuir?
Non, moi, c'est eux qui ont fui parce que moi, j'ai réagi.
Il est effectivement resté sur place pour défendre ses positions avec ses hommes. Surtout que sur le moment, la priorité est l'évacuation du président blessé à la tête. À ce moment précis, la transition vient de basculer, de connaître un tournant décisif comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission et tous les précédents épisodes sur le site de Radio France Internationale, à la rubrique « Les émissions » ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites tous les jours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Restez à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. À très vite.